Chapitre 10.
Elle est morte. Adieu, Perdican.
Et là, Franck s'est tu pour faire genre tada. La suite après la pub. Et la suite, je l'attendais avec impatience. Oui, je me demandais bien comment ils allaient s'y prendre pour sauver les meubles encore une fois, ces deux-là. Vu que la mort d'un pauvre, dans ses fanfreluches à la Monseigneur, ça compte pour du beurre. Et qu'une bonne histoire, surtout d'amour, ça se termine toujours par un mariage à la fin, avec des chants, des danses, un tambourin et tout ça. Mais non, c'était fini. Il était ému et moi énervé. Il disait que c'était fort, et moi que c'était nul. Il soutenait que c'était une belle leçon, et moi un beau gâchis. Il défendait Camille, son honnêteté, sa pureté, sa quête d'absolu. Et moi, je la trouvais coincée, influençable, peine à jouir et masochiste. Il méprisait Perdican, et moi, je le comprenais. Lui était convaincu qu'elle était retournée à son couvent direct, triste et déçue, mais réconfortée dans sa mauvaise opinion des hommes. Et moi, j'étais sûre qu'elle avait fini par se laisser choper au détour d'un buisson, quelques billets doux de raccommodage plus loin. Bref, on tenait chacun notre bout de barbac et on n'en démordait pas. On aurait dit du catch avec des mots. Pardon ? De quoi, petite étoile ? T'es perdue ? Tu te souviens plus de la pièce ? Ah bah attends, bouge pas. Je te résume l'affaire à ma façon, puis à celle de Franck. Et avec un peu de chance, entre les deux, t'auras plus ou moins celle de Musset. Petit A. À ma façon. Camille sort du couvent après avoir entendu pendant toute son adolescence les jérémiades de nonnes qui, elles, fermentaient là par dépit, par aigreur ou par désespoir. Soit qu'elles étaient cocues ou moches, ou les deux, soit que leur famille n'avait pas de quoi leur payer une dot. Bon, ok, il y en avait sûrement des plus saintes et des mieux motivées dans le lot, mais celle-là, elle ne bourre pas le mou des jeunes filles. Elle prie. Camille est toujours folle de son cousin Perdican, sur lequel elle a bien fantasmé pendant toutes ces années, enfermée qu'elle était dans son Tupperware. Ouais, bien kiffée, bien moitée, bien soupirée et j'en passe. Mais comme elle est hyper orgueilleuse et qu'elle pressent qu'il s'est fait plein d'autres nanas quand il était à Paris, ça lui défrise grave sa petite moustache de bonne sœur. Et elle le harcèle de toutes les façons possibles pour qu'il lui dise, genre à genoux et en s'accrochant à son jupon de bure, « Bon, ouais, c'est vrai, j'en ai sauté d'autres. Mais c'était juste pour l'hygiène, tu sais. Moi, j'en ai jamais rien eu à foutre de toutes ces filles. En plus, c'était que des putes. Tu le sais bien que je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi, mon amour. D'ailleurs, je ne regarderai plus jamais une autre femme de toute ma life. Je te le jure sur ton crucifix. Allez, pardonne-moi, quoi. Pardonne-moi d'être tombée dans des trous fourbes et dissimulés, alors qu'il faisait si sombre et que j'y voyais pas plus loin que le bout de mon sgeg. Mais comme il ne marche pas dans la combine, eh non. Et pourtant, il l'aime aussi. Eh oui. Mais sans tous ces bruits de chaîne à la clé. Eh non. Sinon, c'est plus de l'amour. C'est une police d'assurance. Eh si. Et tout ça, c'est dans notre scène à nous. Elle décide de retourner à son bunker et écrit une lettre à sa copine de dortoir où, au lieu de dire « Hélas, on ne voit pas les choses de la même façon, lui et moi. Ressortez mon écuelle et ma paillasse en crin. » Je raboule. Elle en fait des caisses, du genre « Oh, ma sœur, oh là là, oh, je me suis refusée. Oh, le pauvre, oh, qu'est-ce que je lui ai mis à celui-là. Oh, priez pour lui parce que je ne sais pas s'il va s'en remettre et tout ça. »
Bon, pourquoi pas? Il faut bien qu'elle prépare les guirlandes de petits gloussements qui l'accueilleront à son retour.
Sauf que, pas de bol, Perdican intercepte la lettre. Il la lit. Là, c'est nul, on est d'accord. Se rend compte qu'elle mitonne à fond les ballons et décide de la punir en fricotant avec Rosette, la pauvre petite gardeuse-doigt du château qui passait par là au super mauvais moment. Camille les voit ensemble, est de nouveau piquée au vif, se rend compte qu'elle l'aime vraiment et qu'il faut qu'elle arrête de déconner, mais déconne encore. Et Perdican, qui en a plein le séant de tous ces va-et-vient entre Jésus-C et lui, fémine, décide point toujours en débat entre Franck et moi ce jour, d'épouser Rosette pour de bon. Du coup, Camille craque pour de bon aussi et lâche enfin son chapelet et son amour-propre avec. Ah, super! Ils vont enfin s'embrasser après s'être fait 1000 scènes pendant 3 actes. Sauf que, repas de bol, Rosette, qui était dans les parages, a tout entendu et se suscite de désespoir. Et la suite, vous la connaissez. Eh bé, clap clap, hein? Ils auraient vraiment mieux fait de badiner avec l'amour, ces cons-là. Ils avaient tout. Le pognon, la beauté, la santé, la jeunesse, un gentil papa, des sentiments l'un pour l'autre, tout. Et ils ont tout foutu en l'air et tué quelqu'un au passage par caprice, par égoïsme. Pour le plaisir d'enfiler les moucherons et de blablater autour d'une fontaine en se donnant des petits coups d'éventail sur le nez. Écœurant. Petit B. À la Franck. Camille aime Perdicant. Elle l'aime d'amour pur. Elle l'aime plus qu'il ne l'a jamais aimé et qu'il ne l'aimera jamais. Elle le sait. Parce qu'en amour, elle en connaît un rayon bien plus grand que lui et sa Tobinette, toute bonne pointeuse qu'elle soit, réunie. Pourquoi ? Parce qu'au couvent, elle a rencontré le vrai amour, le grand, le pur, le qui ne vous déçoit jamais et qui n'a rien à voir avec toutes nos petites histoires de fesses qui font les choux gras de purepeople.com et des avocats. Oui, elle a été touchée par la grâce et elle est prête à sacrifier son bonheur sur cette terre pour servir son amant infini. Là, elle est simplement venue embrasser son oncle et y récupérer je ne sais plus quoi. Le fric qui lui vient de sa mère, je me souviens plus. Hélas, elle se rend compte que son cousin Didi, même s'il est volage, bécassou et mortel, lui fait encore vachement d'effet. Dame Ned, la voilà toute chamboulée. Bon, c'est vrai, elle a merdé dans sa lettre de petite sainte Nitouche qui se la joue femme fatale, mais d'un, il n'avait pas à la lire, de deux, il n'avait qu'à lui en parler en face, au lieu de se servir de cette pauvre Rosette pour la faire caguer. Rosette, qui soit dit en passant, est un être humain véritable, avec un cœur, une âme, des larmes et des oies et des dindons, donc. Oh, que cette vengeance est mesquine. Mais voilà, elle l'aime. Et quand elle aime, elle est cache. Que ce soit avec Dieu ou avec un lâche. Quand elle aime, elle ne calcule pas. Elle donne tout. Et quand elle lui prenait la tête tout à l'heure, c'est-à-dire dans notre scène avec ses angoisses sur l'amour, la mort, l'usure et la fidélité, ce n'était pas du tout pour le gaver, mais pour qu'il la rassure. Raté. Comme elle est 1000 fois plus mûre que lui, et qu'il est quand même bien sous contrôle de sa chipeau, comme en disait-on à l'époque de sa hallebarde à pompons, il ne capte rien de ce qu'elle lui déverse, et la prend pour une pauvre Mrs. Freeze exaltée et complètement déroutée par ses mères abbesses. Bref, livré sans les pièces, le petit baronnet. Mais comme c'est Camille la sublime, elle est prête à bouffer des tas de couleuvres par amour. Ouais, par amour pour Perdicant, elle est même prête à être aimée sans garantie et en mode random. La classe, non ? Surtout venant d'elle. Parce que Camille, c'est ça. C'est la folie dans la droiture. On croit qu'elle est frigide, mais c'est tout le contraire. C'est de la lave, cette fille. De la lave en effusion. Elle aime l'amour à la folie. Et c'est ça qui fait toute sa vulnérabilité. Et toute sa beauté aussi. Des filles comme ça, il en passe une par siècle et en général, elles finissent mal. Problème de voltage, on va dire. Comme elles sont trop intenses pour les douilles qu'on trouve dans le commerce, elles ont beau essayer de s'adapter, à chaque fois qu'on les allume, pof, tout saute. Bon, bien sûr, après, le courant revient et tout le monde fait « Ah !» en s'en retournant à son petit train-train quotidien. Mais pour elles, c'est déjà mort, elles ont cramé. On les secoue un peu et comme elles font gling-gling à l'intérieur, on les fout à la poubelle. Alors quoi, cette Camille ? Est-ce que c'était sa vraie nature ou est-ce qu'elle avait bouffé trop d'hosties ? Est-ce qu'elle était née avec un cœur trop grand pour le bonheur en barquette ? Ou est-ce que la lave se serait refroidie avec les chaussettes sales de son Perdicant oublié près de la chaise percée ? On aurait pu le savoir en observant son visage le jour de leurs 20 ans de mariage, sauf que game over. Ce crétin de fils à papa a trop joué avec les allumettes. Et la pauvre Rosette écœurée d'être la patate chaude de ces deux bons à rien de petits rupins qui te gargarisent de la roucoule à longueur de journée, mais qui ne sont même pas foutus de se décrotter les bottes avant de marcher sur la tête de leurs gens, se zigouillent dans les coulisses.
Ah, zut!
Non seulement ça fait mauvais genre, mais en plus, ça pourrit l'ambiance.
Hé, hey, annulez le traiteur! Il y a le croque-mort qui prend les mesures.
Adieu amant, serment, mariage, fifres et tambours, la pièce est finie et tout le monde se relève, le cœur un peu barbouillé. Résultat des courses, selon, cette fois, les jumelles de Franck, soif de Camille et geste de Rosette. Même combat. L'amour est total ou l'amour n'est pas. Car on ne badine pas avec l'amour. Point. Finale.